Europe 1, 13h, 14h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Bonjour. La vraie définition de survolter dans le Petit Larousse, c'est déchaîné, électrisé, enflammé, surexcité, frénétique, exalté, galvanisé. Mais, pour présenter Arnaud Ducret, faut rajouter à tout ça un talent comique irrésistible, une présence à l'écran impressionnante dans tous les registres. Franchement, qui d'autre qu'Arnaud Ducret peut, dans la même période, incarner Dupont de Ligonnès et faire hurler de rire dans Vendredi, tout est permis. Et pour achever de brosser le tableau, une humanité qui a secoué direct le cœur du public. Voilà, ce grand gaillard d'1m90 est donc une vraie grande vedette populaire. Après 4 années consacrées au cinéma et à la télé, Arnaud Ducret se jette à nouveau dans les bras de son premier amour, le public. Son one-man show a pour titre « That's Life ». C'est rigolo parce que quand je dis ça, en fait, j'entends vraiment le titre de Sinatra. «
That's life !
That's life !
That's what all the people say ! You're riding high in April, shot down in May !
Et les murs du théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris n'ont jamais été autant secoués par les rires. Arnaud Ducret y joue donc That's Life du mercredi au dimanche jusqu'au 2 janvier. Et ce qui était absolument épatant cet après-midi, c'est que... Et mon invité, bonjour.
Bonjour. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Ça fait plaisir.
Alors Arnaud Ducret, Bedos père disait que... l'humour, ça ne s'apprend pas. En fait, l'humour, c'est comme le jazz. C'est une cadence intérieure. On l'a ou on ne l'a pas. Est-ce que vous pensez comme lui ?
Je pense comme lui. Oui, je crois. Je crois qu'on a... Je ne sais pas si on peut... Alors, on peut travailler l'écriture, ce genre de choses, mais je parle pour mes camarades. Il faut avoir le petit truc. Il faut avoir ce petit truc qui fait que tout d'un coup, tu passes dans l'autre... Dans le vraiment comique. Tu dis, ça, ce mec-là, il est fait pour ça. Ou cette fille-là, il est faite pour ça. Il y en a qui auront beau se battre à essayer de faire du one man. Ils seront drôles au théâtre, bons comédiens, mais il manquera ce truc qui fait qu'ils ont cette touche, cette couleur qui fait que cette fibre comique passe auprès des gens.
Donc définitivement, on peut apprendre à jouer à la comédie, mais on n'apprend pas à être drôle.
On n'apprend pas à être drôle, exactement, je ne crois pas.
quand on a de l'humour, on ne se résigne jamais. En fait, l'humour, c'est aussi un défi. C'est une façon de dire même pas mal.
C'est une façon de dire même pas mal et c'est une façon d'exorciser certaines choses et surtout de, pour ma part, ça a été de faire tomber les barrières. C'est-à-dire que je me suis justifié en me disant, je suis pas si nul que ça, je ne suis pas le cancre que je suis à l'école. L'humour m'a tout d'un coup fait casser les barrières avec les professeurs, par exemple. Et c'est là où je me suis rendu compte que les gens, les professeurs, pouvaient s'intéresser à moi et me regarder en souriant. Et je me suis dit, ah! Là, j'ai un truc.
Ça a démarré très très tôt.
Ça a démarré en sixième à l'école. L'assistante de direction de l'école où j'étais, collège privé,
parce que je m'étais fait. Période charnière, parce qu'on commence à s'intéresser aux filles.
Exact. Alors, vous y venez. Mais c'est vrai que j'ai fait le spectacle de fin d'année. Bon, j'ai toujours aimé faire mon spectacle. J'ai toujours aimé faire rire les gens, même dans les repas de famille, tout ça. C'est toujours un truc que j'ai adoré faire. Mais c'est vrai que quand à la fin de l'année, j'ai joué mon spectacle de fin d'année et que j'ai vu les profs se marraient, me regardaient différemment, et une fille sur qui j'avais des vues depuis un paquet de temps, qui tout d'un coup m'a regardé, elle ne voulait absolument
vous
pas.
Vous a envisagé.
Elle m'a envisagé, voilà. Je vous souviens toujours ça. Je suis sorti à la fin vous savez, de cette fameuse journée de fête à l'école où c'est la fin de l'année. Elle est venue me voir et elle m'a dit : tu fais quoi cet été ? Et là, je me suis dit : ah, là, je tiens un truc.
Bon, alors Arnaud Ducret, ce nouveau one-man show, That's Life, il est autobiographique. C'est votre vie, livrée vraiment avec une générosité phénoménale. C'est parfois la nôtre. Et j'ai découvert dans ce spectacle vos talents de bruiteur et d'imitateur. Alors, bruiteur, par exemple, quand vous évoquez ces souvenirs d'enfance, de pique-nique au bord de la route, organisés par votre mère sur la route des vacances.
C'est ça, oui. C'est-à-dire qu'elle avait toujours... C'est vrai que ma mère avait toujours le chic. C'est vrai, c'est indéniable. Je me rappellerai toujours de ça. On tournait des heures pour avoir le meilleur plan de spot de pique-nique sur le bord de la Nationale. Et en fait, on se retrouvait, dans le spectacle, je dis, voilà, c'est là, on est rocade de Saint-Etienne, voie du milieu. Et donc, c'est... Allez, à table, attends.
toutes les voitures qui passent à côté. Mais vous êtes malade ! Et c'est une partie du sketch, mais ça me rappelle, c'était quand même les meilleurs moments, effectivement, quand on s'arrêtait pour pique-niquer avec nos parents. Je me souviens de ça.
C'est les meilleurs moments après coup, quand on se souvient adulte.
Exactement.
Alors, j'ignorais que, en fait, vous auriez pu faire aussi une carrière d'imitateur. Et ça, je l'ai découvert quand vous racontez, dans ce spectacle, avoir été choriste de Nana Mouskouri sur le plateau de la Starac, oui. et que vous interpellez donc le public en lui disant, mais attendez, imaginez la vie d'un choriste de Patrick Sébastien. Alors là, le sketch qui suit, il est carrément prodigieux.
Ah bah c'est, merci beaucoup. C'est-à-dire que, mais non, mais on, en, alors on connaît Patrick Sébastien, ses chansons, mais je me suis dit, les mecs qui le suivent depuis des années derrière, il y a bien des mecs qui enregistrent, quoi. Il y a bien des mecs qui découvrent les partitions et qui découvrent, qui découvrent le texte. Et donc je fais le choriste qui est là, qui découvre et, qui, et ça fait... pas plus que l'ongle et pas à deux. Enlève ta montre, ça coince un peu. Et là, tu te dis, et le choriste lui-même découvre, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce texte ?
Oui, c'est pas Benjamin Biolay.
Voilà, c'est pas Benjamin Biolay avec Patrick Sébastien qui dit, c'est un texte hyper engagé, c'est sur la transmission, ça s'appelle Ch'touille. Et voilà, et t'as le choriste qui regarde, pardon, Ch'touille. Mais Ch'touille. Voilà, et c'est, j'ai trouvé ça très drôle. Mais j'aime beaucoup Patrick Sébastien, qui grâce à lui m'a fait découvrir Albert Dupontel, qui m'a donné envie de faire ce métier.
Voilà, et on va l'évoquer tout à l'heure. Alors Arnaud Ducret, on sent chez vous vraiment, et on le sent là tout de suite comme sur scène, une joie folle, vraiment à être face à un public. Vous mouillez la chemise comme personne, comme si vous aviez d'ailleurs tout approuvé, alors que... En 12 ans de carrière, vous avez fait près de 13 millions d'entrées au cinéma. C'est Jean-Maël Debbouze qui vous a conforté dans l'idée de ne jamais lâcher la scène, c'est ça ?
Oui, c'est ça. En fait, j'avais fait les Marrakech du Rire. On avait fait un passage tous les deux qui s'était très très bien passé. J'étais au Festival d'Avignon juste derrière. Il m'appelle et il avait envie qu'on fasse des choses ensemble. Alors, des choses qu'on n'a pas fait des trucs, mais moi, bon, il est tellement pris. Puis on n'avait pas trouvé la bonne idée. Mais ça m'avait énormément touché que Jean-Maël m'appelle pour ça. Et il me dit, tu sais, Arnaud, ne lâche jamais ton spectacle. C'est ce qui te lie avec le public. C'est ça qui te maintient. Et il me dit, tu sais, t'as ton spectacle, t'as ton film, tu fais un film, tu le sors, tu fais la promo, ça marche, c'est la cerise sur le gâteau. Ça marche pas si t'as ton spectacle, c'est ce qui te tient avec les gens et tu continues d'exister artistiquement et d'avoir ton public. Et j'avais compris, mais je l'ai vraiment compris quand j'ai effectivement tourné des films et qu'entre deux, il se passait... Bah, j'avais des choses à faire, mais artistiquement, je tout d'un coup, je n'avais
là,
plus...
Là, vous n'étiez pas monté depuis 4 ans, par
exactement.
Exemple.
Et là, je me suis... Donc, il a fallu aussi que je digère mon premier spectacle, on va dire, qui a vraiment marché, qui était Arnaud Ducret vous fait plaisir. Et puis, voilà. Et puis, à un moment, bah, cette flamme, ce truc qu'on aime tant...
Il y a un manque.
Il y a un manque, exactement. Il y a un manque. Et là, tout d'un coup, c'est le moment. On se dit, allez, j'y retourne.
Tant voilà. Mieux pour nous. Alors, sur votre site Instagram... Vous avez posté une vidéo où on vous voit faire les 100 pas derrière le rideau de scène de la Gaîté Montparnasse, alors que la salle bruisse et que le public piaffe d'impatience. On pense à quoi précisément, ou confusément, on pense à quoi quand on est à 30 secondes du décollage ?
Alors, il y a au début de l'exploitation du spectacle, quand on le démarre, on pense à qu'est-ce que je fais là ? c'est le premier truc que tu dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Parce que au moment, juste avant de démarrer le spectacle, tu ne te souviens plus du tout de ton texte. Donc je me répète les premières phrases du début pour justement, c'est ce qui fait que les gens tout d'un coup, je ne veux pas bafouiller, je ne veux pas ricocher, je veux que tout d'un coup les gens se disent ok, le mec qui maîtrise son truc, il est avec nous, c'est lui qui nous emmène. Donc je pense à tout ça. Là, quand la vidéo que j'ai mise, c'est ce que je fais. Je répète mon texte du début et puis je me recentre et je rassemble l'énergie et j'aime entendre le bruit des gens derrière le rideau parce que c'est ce qui tout d'un coup va me galvaniser, qui me donne l'énergie, quoi.
Alors, sur scène, Arnaud Ducret, vous convoquez donc dans vos sketchs tous les gens que vous aimez. Oui. Vos parents, les tantes, les oncles, votre épouse. Vous êtes un très jeune marié, félicitations.
Merci.
Ses enfants, des triplés, c'est pas une blague.
Non.
Vous convoquez vos potes de toujours, Arthur, Michael Youn, Franck Dubos, François-Xavier de Maison.
Oui.
Et Oscar, votre fils de 9 ans, avec lequel vous bouclez d'ailleurs le spectacle. Mm-hmm. Il sera comédien, Oscar, plus tard.
En tout cas, alors je fais toujours attention parce que vous savez, les enfants veulent ressembler, enfin surtout mon fils, il a envie de, bah, il se projette et il ressemble.
Il faut que j'explique qu'il participe au tout dernier sketch, mais simplement d'une manière sonore. Voilà. C'est vocal. Il n'est pas présent physiquement sur scène, mais il est très doué.
En fait, c'est vrai que quand je l'ai enregistré, je pensais toujours quand on avait des conversations tous les deux, ces moments de voilà, quand on parle avec mon fils me parle, il me dit papa, tu sais, et un jour il me dit papa, j'aime pas, t'as les cheveux gris, tu vieillis, tout ça, tous ces moments-là, je me suis dit tiens, c'est drôle, est-ce que j'aurais pas une conversation avec mon fils à la fin du spectacle. Et donc je l'ai enregistré et c'est vrai que j'étais assez surpris. de l'aisance qu'il avait, c'est-à-dire que je lui balançais les phrases et il les répétait. Je lui disais attention, articule bien ici. Il l'a répété. Fais plus joyeux, plus sourire, plus moqueur. Enfin voilà, il trouvait vraiment. À chaque
mais il
fois
a le sens du jeu.
Il a le sens du jeu. Il a fait un film aussi avec moi où il apparaît dans le film. Après, moi, je ne le pousse pas parce que, vous savez, à cet âge-là, ils veulent ressembler beaucoup à leur papa. Mais je lui dis tu veux venir, tu viens, tu veux pas, c'est pas grave. Voilà. Et puis et sur les tournages et sur le spectacle, c'était aussi important de lui montrer que quel était le travail de papa. Parce que quand tu dis à ton fils bon bah je te laisse, je vais jouer. Ce gamin il dit comment ça je vais jouer.
Oui, parce que dis donc, arrête de jouer, viens faire tes devoirs.
Ouais, viens faire tes devoirs. Voilà. Mais moi par contre je vais jouer. Donc il fallait absolument que, enfin absolument. Mais je voulais lui montrer et effectivement il a vu ce que c'était un tournage, la discipline que c'était, le temps qu'on devait passer à apprendre ses textes, à attendre.
L'investissement,
c'est du travail.
Alors ce one man show, effectivement il est hilarant, mais on vous sent très très préoccupé par le temps qui passe.
Mais ouais,
Infuse.
Ouais,
hein,
ça infuse. Ouais.
Même si les gens hurlent de rire tout le temps, quand même, on sent qu'il y a des réflexions comme ça.
C'est-à-dire que.
Qui vous agace.
Qui m'agace. Et puis surtout, je ne sais plus où j'ai entendu ça, mais un psychologue qui disait qu'à partir de 40 ans, chez les hommes, il y avait beaucoup de dépression. Parce que sur la quarantaine, les hommes prennent conscience de la mort et du temps qui passe et qu'effectivement ça arrive vers 40 ans pour les hommes. Donc peut-être que j'ai aussi je prends conscience de ça. Vous savez, quand on a un enfant, ça nous rapproche de la mort, mais ça nous donne une continuité. On se dit
oui.
Mais c'est aussi ça qui est très beau d'ailleurs. Mais effectivement, je vis vite. Je trouve que le temps passe vite quand je me retourne et que je en parle dans le spectacle.
Vous ne vieillissez pas du tout, mais vous avez le sentiment que le temps file vite.
Voilà le temps. Voilà le temps file vite. Merci beaucoup. Le temps file vite, mais voilà, effectivement, j'ai toujours peur que je me dis ça va vite quoi, ça va tellement vite, donc il faut en profiter.
Alors, votre one man show a pour titre That's Life. Franchement, ça sonne mieux que C'est la vie. Hein.
Ouais, c'est tout de suite, comme je dis, feuilleton de France 3 avec Francis Perrin, que j'aime beaucoup, hein, mais c'est vrai que c'est très feuilleton pour France 3. Donc, That's Life, c'est plus clinquant, c'est plus Sinatra, c'est plus chic.
Waouh! Ah, qu'est-ce qu'on est bien sur Europe 1 avec Arnaud Ducret. On fait une pause très courte, on le retrouve tout de suite.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Les chiffres font rêver. En 12 ans de carrière seulement, 13 millions d'entrées au cinéma, 9 séries phares à la télé et des one-man shows qui emballent autant le public que la critique, comme le nouveau That's Life au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris jusqu'au 2 janvier. Voilà, on se balade cet après-midi sur Europe 1 avec Arnaud Ducret. Alors, cher Arnaud, faire rire, c'est une seconde nature qui remonte chez vous à la petite enfance, vous l'avez confié tout à l'heure. Je devrais dire d'ailleurs une première nature. Votre père raconte que, enfant, vous faisiez mourir de rire la famille en imitant Nicolas Hulot.
Oui.
Ouais, mais alors, comment vous y preniez pour rendre comique Nicolas Hulot? Qu'est-ce qu'il avait d'irrésistible pour un imitateur en herbe, Nicolas Hulot?
Surtout, c'était de voir ce qui faisait rire mon père, parce qu'un jour, il m'a vu sortir de la table, j'étais sous la table, en train de regarder la télé. Il y avait Ushuaïa qui passait les samedis soirs, et j'adorais cette émission, donc tout le monde regardait, et puis je vois. Nicolas Hulot, je l'entends, je l'écoute, je le vois. Nous sommes actuellement dans les fonds marins. Et j'étais tout gamin. Et si vous voulez, mon père, de me voir sortir du haut de mes 7-8 ans, je crois, et arriver en faisant « Eh bien, je suis actuellement ». Et donc là, mon père, il me regarde, il a eu un fou rire avec toute la famille, ma belle-mère qui était là, tout le monde se marre et il adorait. Alors après c'était Arnaud, fais-moi Nicolas Hulot. Et donc comme moi je demande à mon fils, quand mon fils m'imite en train de danser, je tape des barres, je dis fais-moi, montre papa comment il danse. Voilà.
Et la liste s'est agrandie bien évidemment.
Bien sûr.
Très vite, parce que vous êtes un vrai enfant de la télé, biberonné à l'esprit Canal.
Totalement biberonné à l'esprit Canal, Garcia, Antoine Decaune, Les Nuls. Il y avait ma mère, on regardait tous les soirs Nulle part ailleurs. J'adorais cette émission, mais et gamin, je regardais ça et je me disais, oh, c'est quoi ça, c'est où ça, c'est à Paris ça, c'est ça que je veux vivre moi.
Je veux y aller,
y aller. Vous savez, j'écoutais petite parenthèse, mais j'écoutais aussi, vous l'avez connu, Super Nana, qui à l'époque qui à l'époque était sur une radio concurrente qui était Radio Libre, qui était Skyrock, on me permet de le dire. Je me souviens, j'étais tout gamin et j'avais le casque jusqu'à, je ne dormais pas, j'écoutais la radio Super Nana jusqu'à 2h du matin. Ma mère ne comprenait pas pourquoi j'étais fatigué le lendemain.
En revanche, nous on comprend pourquoi à l'école c'était pas terrible.
Exactement. Mais ma mère me dit, mais pourquoi t'es fatigué comme ça? Mais je ne pouvais pas décrocher de la radio, j'adorais la radio. Je me disais, mais moi, c'est ça que je veux, moi, c'est ma vie, elle est ici, quoi.
Bon, alors, Arnaud Ducret, vous êtes né et avez grandi en Seine-Maritime. Votre papa, il était chariste chez Renault. Mmh. Ça signifie quoi, chariste ?
Chariste, bah, vous savez, il, avec les transpales, il déplaçait tous les matériels. Il était là pour stocker tous les, le matos de, des voitures de chez Renault et de faire
c'est-à-dire
ce genre de choses.
C'est-à-dire qu'on pilote des grues.
Voilà, il pilotait des grues, tout ça, voilà, exactement. Et des transpales qui permettaient, vous savez, de prendre des palettes énormes d'un point incroyable et pour les déplacer, stocker ailleurs. Enfin, voilà, c'est...
Et alors, le rêve de votre maman, eh ben, elle, votre maman, qui travaille à la Sécurité sociale, son rêve, ça aurait été d'intégrer le Big Bazar dans les années 70, c'est ça ?
Oui, alors ma mère travaillait à la Caisse de Retraite Assurance Maladie.
Ouais.
Et en fait, oui, effectivement, quand elle était jeune, je tiens ça de ma maman parce que quand elle était jeune, elle voulait... Ouais, ouais, ma mère m'a toujours soutenu et m'a porté jusqu'au bout et elle continue de me porter. Et c'est vrai qu'effectivement, elle a voulu rentrer dans le Big Bazar. Elle a envoyé une lettre, la pauvre n'a pas été prise, mais tout d'un coup la transmission
mais
était
elle a
faite.
Elle a fait le casting ?
Elle n'a pas fait le casting, mais elle a déjà envoyé un courrier, vous savez, c'était... Puis alors on est dans les années 70, maman elle n'était pas à Paris,
oui.
Vous savez comment c'est, hein, on envoie les lettres, on se dit est-ce que ça va y aller ou pas, c'était encore autre chose, c'était une autre époque. Mmh. Donc voilà, mais oui, elle a toujours regardé les sketchs de Pierre Palman, les émissions de Patrick Sébastien,
oui,
où il y avait de l'humour.
Elle a cette fibre
artistique,
elle a ce goût, elle a cet intérêt.
Ouais, ouais, elle a fait 2-3 films avec moi où elle passe en figure derrière, elle est à côté de moi, elle fait des choses.
C'est magique,
ouais,
ça.
Ouais, c'est extraordinaire. Non, mais ça, c'est des moments toujours incroyables. Donc oui, elle a toujours eu ça.
C'est votre maman qui a aiguillé votre sœur vers une troupe de comédie musicale.
Et vous êtes bien enseigné, effectivement, effectivement, bravo. Oui, c'est maman qui ma sœur a toujours aimé chanter.
Ouais.
Pareil, ma sœur a aussi une fibre artistique. Elle chante très très bien. Elle a toujours aimé ça. Et puis elle est rentrée dans cette troupe de comédie musicale. Moi, j'étais compliqué à l'école. J'étais pas méchant. Mais j'étais
je survolais l'école
et j'étais un peu ingérable et donc un jour ma sœur dit mais tu devrais venir avec moi dans cette troupe parce qu'elle savait que j'aimais le théâtre et je me souviendrai toujours de ce moment effectivement où tout d'un coup je rentre dans ce théâtre, c'était au Trianon à Sotteville-lès-Rouen pour ceux qui connaissent et je devais distribuer des micros aux chanteurs et tout d'un coup je suis sur scène et je vois les projecteurs, je vois les gens, je vois le maquillage, le tout ça, je vais et là je me dis mais c'est quoi ça? C'est ma vie, ça.
Vous aviez quel âge?
J'avais 12 ans et demi, 13 ans, je crois, quand j'ai commencé là-dessus.
Bon, alors très vite, vous avez dû vous débrouiller pour vous faire repérer, arrêter de distribuer les micros et monter carrément sur scène aux côtés de votre sœur, c'est ça?
Exactement, je suis à côté de ma sœur, elle chantait des leads et moi je faisais les chœurs, mais ça m'a appris très jeune c'est formidable, à harmoniser, à travailler en troupe. Et ça m'a énormément aidé, ça m'aide énormément pour mon travail maintenant.
Alors, cette troupe, elle tournait en province, faisait de véritables spectacles, donc très répétés. Ça a été une vraie formation, à la fois de danseur et de chanteur, parce que j'ai appris qu'à l'âge de 16 ans, ben, vous êtes entré comme choriste dans un groupe de gospel.
Mais c'était ça en fait, on a arrêté la comédie musicale et on est parti sur le gospel. On a tourné, on a chanté avec Janis Jamison, Michael Robinson, qui sont des chanteurs ici américains très connus dans le gospel. Je suis un grand fan de Kirk Franklin, pour ceux qui connaissent. C'est l'un des plus grandes stars de Modern Spiritual aux États-Unis. Et j'ai appris, oui, à chanter.
Là, vous êtes en train de nous dire que, attendez, pour accompagner comme choriste des pointures pareilles, il faut avoir la voix, le groove, un vrai talent.
Bah, on nous apprenait le groove. Et nous apprenait Jean-Paul, qui était le directeur musical, Jean-Paul Goury, qui est décédé, que j'aime tant, qui a été mon père spirituel pendant tant d'années. Il nous apprenait à groover. Il m'a appris la musique avec Earth, Wind & Fire, avec Quincy Jones, que vous connaissez, James Ingram. Earth, Wind & Fire, c'est un des plus grands groupes qui existe, je pense, noir américain extraordinaire. J'ai une grande passion pour la musique noire américaine, plus particulièrement. Mais voilà, et ça m'a énormément aidé pour, je vous dis, maintenant, je double des dessins animés. Je pense que c'est grâce à ça. J'ai fait la comédie musicale Spamlot des Monty Python avec Pef. J'étais Galahad. Je pense que c'est grâce à ça. On m'avait proposé pendant mon Chicago, je n'avais pas pu le faire.
Ah oui, carrément.
Pour faire le rôle de Richard Gere, mais je n'ai pas pu le faire.
Extraordinaire.
Richard Gere. J'aimerais bien refaire une comédie musicale un jour. Ça me plairait vraiment de pouvoir faire même un Chicago, ce genre de choses. Ça me plairait.
Donc vous avez cette musicalité en vous.
Oui, voilà. Ouais, je crois. Ouais, ouais.
Et à l'époque, vous produisiez dans les églises ?
On se produisait dans les églises, on faisait aussi beaucoup de mariages. Qu'est-ce qu'on a pu rire ? Je vous jure qu'on a fait des mariages qui se sont très bien passés. On a fait des mariages, j'en ai vu finir en bagarre, je vous assure que c'est vrai. C'était horrible, mais ça fait des souvenirs où on s'est tapé comme des bons fous rires. Mais ouais, dans les églises. Et j'ai travaillé avec Jean Manson pendant un moment. Elle tournait avec des
oui, bien sûr.
Jean, alors voilà, j'ai tourné avec elle, que j'embrasse. On a fait.
Et c'est avec ce groupe de gospel alors que vous êtes retrouvé, Arnaud Ducret, un jour sur le plateau de télé de la Starac à faire. Le choriste de Nana Mouskouri ?
Alors, c'est pas avec ce groupe, mais parce que j'avais quitté le groupe pour pouvoir travailler à Paris. Et j'ai fait comme tous les comédiens de l'époque. J'ai envoyé des CV partout pour pouvoir travailler. Et j'ai dit que je savais chanter. Donc ils m'ont dit, tu sais chanter, tu vas te mettre... Voilà, et on s'était très bien payé. Et c'était avec Nathalie André. Voilà, on est parti avec son agence et on est allé... je suis allé faire la Star Academy. Et vous savez, c'est mes tout débuts. Donc c'était genre, maman, regarde, je vais faire la Star Academy. En fait, je passais mais une demi-seconde, on me voyait à peine, j'étais dans le fond, mais toute la famille faisait, oh, t'as vu, c'est génial. Et maintenant, je ne dis plus à ma mère quand je fais les émissions parce que j'en fais beaucoup trop.
Alors en fait, c'était une formation complète à cette époque, parce que vous passiez en boucle, en même temps, parallèlement, les cassettes d'Albert Dupontel.
Ouais,
vous aviez très bon goût, hein.
Ouais. Ah bah Albert Dupontel.
Je sais le maître.
Ouais, c'est Albert Dupontel. C'est, vous savez, quand on est, moi je suis un enfant, je suis devant la télé grâce à ma maman. Je dis toujours grâce parce que c'est des détails comme ça. J'ai une maman qui aime ça. Il y a des gens qui préfèrent regarder une autre chose, mais elle me met dans ça. Tout d'un coup, on regarde Patrick Sébastien. Patrick Sébastien qui dit, oh, tout de suite, j'accueille Albert Dupontel. Formidable, il est génial, vous allez voir. Et là, je vois un mec arriver. Oh putain, hier j'ai vu un film. Et là, je fais waouh. Et là, je suis plié de rire. Et je me dis, c'est quoi ce mec? Et donc, j'ai demandé à ma mère d'acheter toutes les cassettes et je l'ai passé en boucle. Et je jouais, comme beaucoup font, hein, j'arrête, stop, tu reviens en arrière, tu regardes comment il fait sa mimique.
Ouais, puis vous pouvez passer une thèse sur Dupontel.
Ah ouais, 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 ouais. Bah, c'est-à-dire qu'un physique incroyable, une énergie de dingue, une puissance d'ailleurs qu'il a encore maintenant à fleur de peau,
bon,
ça se voit.
Comme vous.
Si j'ai le quart de ce que.
Ah, si j'ai envie de le dire, je le dis, j'affirme.
C'est gentil, merci beaucoup, c'est gentil, ça me fait plaisir.
Mais alors, je ne comprends pas avec tout ça, franchement, Arnaud Ducret, qu'un conseiller d'orientation au lycée ait eu l'idée saugrenue de vous diriger vers un BEP d'électrotechnique.
Ouais.
Et vous avez résisté combien de temps? Vous avez tenu?
J'ai tenu 2 ans. J'ai même pas tenu 2 ans, j'ai tenu 1 an et demi. Et puis après,
en électrotechnique.
Ouais, j'ai dit, je suis arrivé. Parce qu'en fait, je lui ai dit que je voulais faire de la radio. On m'a dit, tu veux faire de la radio, tu es animateur. J'aimerais bien faire de la radio, être animateur. J'ai toujours aimé les voix à la radio, j'adore ça. Alors il me dit, tu vas faire un BEP électrotechnique qui va t'emmener dans l'électricité en bâtiment. Et après, tu vas faire de l'électronique qui va te permettre de faire du son de table de mixage. Et un bordel improbable. Donc j'ai dit, non, je vais y aller tout seul.
Bon, il paraît que... Un beau jour, bah voilà, ne tenant plus, vous avez dit à votre maman, bon maintenant, faut que tu me laisses aller à Paris parce que sinon, je risque de mal tourner. C'est vrai, vous lui avez dit ça.
Ouais, ouais, ah, ça s'est exactement passé comme ça. Il fallait l'approbation de ma maman. C'est marrant, hein, parce qu'on a 18 ans, on commence à devenir pas un homme, mais un bon jeune homme. Et je me dis, tu peux partir et faire n'importe quoi, mais il fallait quand même que ma maman me regarde dans les yeux en me disant, d'accord. Et donc, je suis rentré effectivement de ce BEP électrotechnique. Vous savez, je dormais en cours. C'est horrible pour les profs. Vous savez, j'étais arrivé à ce moment je commençais à déprimer, où je me foutais de tout.
Oui, c'est ça.
Ça devient, c'est là où c'est dangereux. Je me foutais de tout. Donc j'arrivais à la bourre, je dormais en cours. Le mec, il me disait, le prof, il me regardait, il me disait, dis donc, je fais, ça va.
Vous aviez le sentiment d'avoir déjà raté votre vie.
J'avais
c'est
déjà
ça
un peu raté ma vie, je pense. Et le sentiment que j'allais la rater, en tout cas bien. Et je dis à maman en rentrant, je serai toujours de ce moment, dans la cuisine, elle était en train de faire à manger. Je lui dis, maman, tu sais, il faut que je parte à Paris. Je vais y arriver, tu vas voir. Ne t'inquiète pas. Elle me dit, écoute. Tu vas y arriver, tu travailles, tu me promets que tu travailles. J'ai dit, tu vois, je vais travailler, maman. Je suis parti à Paris, et ça m'a une espèce de poids sur les épaules tout d'un coup. Vous savez, tu sens les ailes se déployer, tu fais, ça y est. Et je suis allé trouver du travail à Paris, j'ai démarché le restaurant.
Vous avez trouvé une chambre, pas dans la capitale, mais à Courbevoie.
Ouais.
Et alors, le boulot, effectivement, vous avez tenu votre promesse, parce que l'après-midi, Arnaud Ducret, vous étiez vendeur dans une boutique de fringues, ou parfois une boutique de gadgets.
Ouais.
Le soir, vous étiez serveur dans un restaurant de la rue Montorgueil. Et tout ça, c'était pour payer les cours d'une école qui vous faisait rêver, le cours Florent, une école dans laquelle vous n'avez pas du tout été heureux.
Non. Alors j'ai eu la chance de pouvoir me faire plein d'amis et de continuer de les fréquenter, de se souder les uns aux autres pour pouvoir avancer après l'école. Mais je trouvais que oui, effectivement, c'est les cours Florent c'est devenu l'école où il y a énormément de monde. Nous, on était, je crois, 35 par classe ou peut-être un peu moins. Donc tout le monde ne pouvait pas passer sur le plateau parce que on n'avait pas assez de temps. Et puis surtout, on avait des niveaux qui n'étaient pas les mêmes. On avait des mecs qui étaient en deuxième année qui en fait auraient dû rester en première année ou même pas rentrer dans l'école.
Mais comment est-ce possible? Pourquoi les profs ne savaient pas bien dispatcher?
Je sais pas si c'est les profs qui savaient pas bien dispatcher, mais je crois que c'est surtout que l'école fallait que ça passe de l'argent, quoi. Donc voilà.
On retrouve tout de suite Arnaud Ducret.
Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. 13h, 14h, Isabelle Morizet.
Il a la détente la plus rapide de sniper de l'humour. En réalité, il excelle autant dans la comédie que dans le drame. C'est Arnaud Ducret qui, jusqu'au 2 janvier, pulvérise notre spleen au théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris avec un show de compète intitulé « That's life ». Alors Arnaud Ducret, pour exister, un artiste a besoin de visibilité. La scène, la télé, le cinéma. Il a été long et parfois improbable le chemin qui vous a révélé au public. Vous avez eu des boulots beaucoup plus pittoresques que serveur et vendeur à vos débuts, ce qu'on évoquait à l'instant, puisque vous avez été doubleur de films porno. Je parle de la bande-son, bien sûr. Alors, à l'époque, il y avait pas mal de comédiens, pas encore connus, qui bouclaient leur fin de mois comme ça, avec ce genre de doublage très singulier.
Ben et surtout, il y a des grands doubleurs, enfin, certains qui sont devenus grands doubleurs, qui ont démarré par là, mais il n'y a pas de... Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, ils nous demandaient j'avais un copain à moi, qui s'appelait Frédéric Soutrel, que j'embrasse, qui m'avait dit, tu sais, il a une très grosse voix, une très belle voix, il m'avait dit, viens, on fait des doublages, mais c'est bien, t'apprends quand même, ça te fait un peu de cachet, tout ça, et puis ben voilà. Donc j'y suis allé. Et comme je dis dans mon spectacle, des fois, c'est peut-être plus simple de jouer dedans que de les doubler.
Voilà, exactement. Voilà. Mais alors, on apprend quoi? Parce que quand même, les doublages de films porno, il y a plus de gémissements que de dialogue.
Ah oui, mais surtout quand il y a du dialogue, tout le monde improvise, donc c'est n'importe quoi. Mais c'est, non, dans mon sketch, ça devient... Ce passage-là cartonne. J'en suis très content parce que j'étais persuadé que ça allait faire rire les gens et j'ai réussi à trouver le bon axe pour que ça fasse rire les gens.
Oui.
C'est que tout d'un coup, ça devient... ça devient du mime. C'est-à-dire que les gens me voient faire des trucs, ils sont plié de rire parce que
vous êtes bruiteur et vous faites du mime.
Et je fais du mime et puis je parle avec un mec qui est dans un autre studio à côté qui lui fait un Disney et voilà. Et donc ça marche très très bien et surtout ça m'a appris à suivre cette fameuse rythmique sous les images qui est les rythmiques de texte.
D'accord. Alors il n'y avait pas Internet à l'époque où vous faisiez ça, donc les gens allaient soit en salle soit sur Canal+ pour voir le film X. Aujourd'hui j'imagine que les films porno on les double même plus.
Bah c'est ça je crois, hein. Les films porno on les double plus, de toute façon c'est en un clic donc Et puis c'est vrai que malgré tout, surtout maintenant, les dialogues, on s'en contre-fou, quoi, je
totalement.
Crois.
Totalement.
Déjà à l'époque, c'était un peu ça.
Dites-nous, comme doubler des pornos, c'est effectivement enregistrer des gémissements toute la journée, ça fait grimper la libido du doubleur ou c'est le contraire? Quand il rentre chez lui, si sa fiancée est jolie.
Je sais pas, mais bon, vous savez, vous arrivez le matin, il est 8h du matin avec un petit café sur un écran de 4x3, il y a deux mecs qui vont pas faire dans la dentelle, même s'ils en portent. Donc, je veux dire que vous êtes devant ça, vous dites, bon. Ok les gars, on y va. Ouais, alors toi tu fais le mec, toi tu fais la fille qui est derrière. Je fais lequel moi? Celui qui est au milieu entre les deux, d'accord. Et voilà, ça nous faisait beaucoup rire ceci dit.
Bon, au nom de cette fameuse visibilité, Arnaud Ducret, on vous a retrouvé chez Vincent Lagaffe, dans le Big Deal, où vous faisiez du beatbox, mais aussi dans le fameux Morning Café sur M6, où vous écriviez des sketchs et où vous avez rencontré Jérôme Commandeur.
Ouais.
Alors ça c'était une période heureuse, insouciante, où au contraire c'était la guerre pour exister.
C'était la guerre pour exister au sein de la production, de cette prod-là. Nous, tant que ça passait, on était contents, mais on nous mettait... si vous voulez, moi, j'écrivais des sketchs et on me demandait de venir dans un bureau et de me faire... Alors, tiens, vas-y, fais-moi ton texte. Alors, tu devais, toi, debout, balancer un texte à quelqu'un avec, je me rappelle, il y avait un petit stagiaire à côté d'elle, la productrice, puis qui attendait comme ça. Puis alors, qu'est-ce que t'en penses? Bah, moi, je trouve que la fin, c'est bizarre et tout. Donc, si vous voulez, c'est pas grave, on est là pour avancer. Mais si vous voulez, je disais des fois, on ne respectait pas énormément, en fait. On était les deux à faire avec ma copine Karen Dercé, qui maintenant m'assiste à la mise en scène dans mon spectacle, que j'ai connu à Flans. Voilà, pour dire, c'est bien. Voilà,
donc ça a quand même eu du bon.
Ça a eu quand même eu du bon, bien sûr. Mais voilà, si vous voulez, on n'était pas du tout respecté, mais on devait écrire dans l'efficacité, il fallait aller vite. Donc malgré tout, j'apprenais mon métier. C'était important et je l'apprenais mon métier. Mais on n'était pas du tout épaulé. Au bout d'un moment, on a dit, vous savez quoi, allez, c'est bon, moi j'ai assez fait.
Voilà.
Maintenant, je m'en vais, je vais faire autre chose.
Exactement. Mais vous dites que Jérôme Commandeur vous a beaucoup aidé dans ce métier.
Alors Jérôme.
Par la suite, c'est-à-dire.
Totalement. C'est-à-dire que Jérôme, on s'est rencontré au Morning Café, comme vous le disiez. À l'époque, le petit Jérôme était un peu était dans le creux de la vague. Il avait fait avant, c'était Graines de Star, il me semble. Il avait un duo, tout ça. Mais bon, là, il était un peu il fallait se reprendre au niveau du travail et tout, de revenir artistiquement. Et il m'a vu, il me dit moi j'aime bien ce que tu fais, tu me fais rire et tout. Et on s'est retrouvé lui et moi à faire de la radio. On faisait les matinales d'une émission de radio et on écrivait des sketchs ensemble. Et on ne s'est plus lâché. Il m'a énormément appris sur l'écriture, énormément appris sur la construction d'un spectacle.
Ouais.
Il m'a énormément appris sur le métier. Et c'est Jérôme, c'est une des personnes dans ce métier que j'aime le plus et que je respecte le plus parce qu'il m'a énormément apporté dans ma vie.
Et ben voilà, c'est dit. Alors, ensuite, le cinéma s'est intéressé à vous. Vous avez fait donc du one-man show, mais l'année soudain où toutes les planètes se sont alignées, c'est 2013. Alors, cette année-là, Arnaud Ducret, soir après soir, vous êtes entré dans les salons de tous les Français, juste après la grand-messe du journal de 20h sur France 2. La série s'appelait, bien sûr, tout le monde l'a deviné, par en mode d'emploi. Elle était furieusement moderne, hyper bien jouée par vous et votre camarade Alix Poisson. Ça a été un triomphe pendant 8 saisons, et on pense bien sûr à l'aventure Un gars, une fille, qui a lancé Jean Dujardin. Est-ce qu'on peut dire que les phénomènes étaient similaires ?
Alors, une des raisons pour laquelle mon agent m'avait appelé en me disant, mais tu sais, ils veulent faire un parent mode d'emploi, c'est un couple, tout ça. Donc, effectivement, on n'a pas pu. On était obligé de faire un peu le lien en se disant, mais bon, ok. Alors, je ne voulais surtout pas faire une suite d'un gars et une fille. On était bien d'accord parce que c'était tellement formidable qu'il n'y avait rien à faire. Donc, mais on a compris qu'après, c'était surtout la famille, il y avait des enfants, voilà. Tout ça. Donc, c'était surtout Elephant Story qui produit Fais pas ci, fais pas ça. Et en fait, voilà, j'ai regardé la production qui me plaisait, j'ai regardé avec qui j'allais le faire. Et puis, quand j'ai su que c'était Alix Poisson, avec qui j'avais déjà fait des lectures pour une pièce de théâtre.
Elle est prodigieuse.
Et Alix, j'ai fait ouf, ok, d'accord. Là, ça commence à m'intéresser. Et j'ai bien fait.
Et vous avez bien fait. Ça a été un triomphe. 8 années consécutives. Alors, j'évoquais à l'instant Du Jardin. Arnaud Ducret, vous vous imaginez à la soirée des Oscars. Alors là, on ferme les yeux. Vous montez sur scène. Et vous allez faire, en anglais bien sûr, un speech devant George Clooney et Martin Scorsese, les mains comme ça, serrées sur l'Oscar. Vous imaginez
ouais,
ça
ouais, ouais. Bah, il faut l'imaginer, c'est ce qui nous projette en fait. Regardez, je dis toujours, j'ai à ma femme ou aux gens avec qui je travaille, tout est possible dans ce métier. Omar, il vient de Trappes.
Mais oui.
Omar, il vient de Trappes.
Et il vit à Los Angeles.
Et
maintenant.
C'est le 100e mec le plus influent de Times. Voilà. Il a signé avec Netflix encore. Il est producteur. Il ne manque plus que la casquette de réalisateur. Donc, tout est possible. Jean Dujardin, il était, comme nous, au Blanc Manteau, à faire des sketchs en Bryce de Nice avec une perruque.
On pourrait évoquer Marion Cotillard.
Marion Cotillard, qui a fait, oui, elle avait fait aussi des AB Productions. Elle était passée dans des AB Prod. Enfin, tout est possible.
Et Camille Cotin, que le grand public a découverte grâce à la série 10% et qui amorce une carrière américaine en tournant avec Matt Damon et Lady Gaga.
Voilà. Et Camille Cotin, j'avais tourné avec elle pour un programme qui s'appelait Zach sur une W9 ou Orange Cinéma. Non, c'était Orange Chérie. D'ailleurs, c'était totalement obscur, mais bon, ils avaient produit ça, c'était super. On s'est beaucoup amusé avec Arthur Benzaken. Mais voilà, maintenant,
donc,
Camille Cotin.
Donc, tout est possible.
Tout est possible.
Et ça veut dire que Hollywood est à portée de main pour celui qui sait rêver en grand.
C'est-à-dire que demain, j'ai l'histoire, le film, qui tout d'un coup... C'est ça qui est extraordinaire dans ce métier. C'est l'histoire. Omar, il n'était pas prévu pour ça. Qu'est-ce qui l'a amené là-bas? C'est le film. C'est tout d'un coup... il a eu une chance, et puis son talent extraordinaire de tomber sur ce film qui tout d'un coup vous
intouchable,
qui va vous transporter au-delà de ce que vous pouviez penser. Et c'est à vous de saisir ce moment ou de ne pas le saisir, mais moi j'aurais fait comme lui, je l'aurais saisi comme ça.
Et comment votre anglais
je baragouine un peu, je comprends, mais je veux dire, d'ailleurs je vais me remettre là en formation pour justement mieux le parler.
D'accord.
Mais ce n'est pas
pour
une finalité.
Pour bien saisir. Non, c'est pas une finalité, mais on a compris que si l'opportunité passe. Donc Arnaud Ducret, par votre emploi sur 8 saisons a été un triomphe. Vous savez très bien que certains pourraient rester prisonniers du genre, mais alors pas vous. Vous nous avez prouvé ces deux dernières années que vous excellez dans les rôles noirs et dramatiques. Vous avez incarné d'ailleurs l'année dernière Xavier Dupont de Ligonnès, l'homme le plus recherché de France, pour avoir assassiné méthodiquement toute sa famille. J'aimerais bien savoir, on hésite longtemps avant d'accepter un tel rôle.
Je n'ai pas hésité longtemps, j'ai lu le scénario qui m'a plu, et puis je trouvais que c'était... c'était une chance, malgré que ce soit une histoire horrible, malgré tout. Bon, bah voilà, c'était quand même incroyable pour moi, Arnaud venant de l'humour, de jouer parent mode d'emploi, le papa le plus préféré de France,
voilà.
Pour terminer dans le plus détesté.
Voilà.
Je ne me suis pas posé toutes ces questions, mais c'était évidemment pour un comédien jouissif de pouvoir tout d'un coup jouer une facette d'un personnage qui a plusieurs couches, dont une très sombre et très solitaire. Et ça, c'est assez incroyable à jouer, quoi.
Mais dans quel état refaitons les gestes d'assassinat commis par un père sur ses enfants. Soudain, on n'est plus sur un tournage, on est dans une reconstitution de crime.
Ça a été le cas, effectivement, quand on a tourné pendant, je crois que c'était 2 semaines, oui, il me semble, 2 semaines dans la maison. Tout ce passage à l'acte qu'il y a eu dans la nuit. Je dois avouer que moi, je suis du genre à décapsuler entre les scènes. Moi, j'aime rire. Il faut que
ouais.
C'est mon remède.
Ouais.
C'est comme ça.
Il faut lâcher prise.
Voilà, je me marre avec Pierre Acnil, le réalisateur. On riait beaucoup avec l'équipe technique, tout ça. On riait beaucoup. Mais il y a une scène effectivement où il y a eu un grand silence derrière parce que où il abat un des enfants dans la tête, le dernier qu'il a abattu en train de regarder un film. C'est vrai que là, tu ne peux pas. Humainement, tu ne peux pas ne pas te transposer et te dire, te projeter. Bah voilà, c'est moi, j'ai un enfant, hein, donc je me dis, mais comment tu peux vriller à ce point, quoi? Comment tu peux vriller à ce point?
Le matériel qu'il a utilisé pour enterrer donc ses enfants, il est allé l'acheter avec
son fils.
de ses fils.
Avec l'un de ses fils, voilà. Donc voilà. Bon, déjà, moi, c'est impossible. Hein. Mon fils ne sait pas garder un secret. Donc voilà, mais c'est...
Mais alors, je voudrais savoir, même si vous êtes doué pour lâcher prise très vite, vous avez mal dormi pendant combien de temps?
J'ai pas mal dormi.
Après ce tournage?
Non, du tout. Du tout. Alors, il y a des gens qui me disaient, mais ça se trouve, il va venir te voir et tout. Je dis, de quoi vous parlez, les mecs? N'importe quoi. Non, j'ai pas mal dormi. Non, moi, je travaille dans la bonne humeur et je vis dans la bonne humeur. J'essaye, moi. Voilà, parce que c'est pas toujours évident. Mais voilà, je suis pas en train de me tordre dans tous les sens pour un rôle. Quoi,
vous ne laissez pas des rôles comme celui-là infusés comme ça en vous?
Non, du tout. C'est fait. C'est, après, ça m'appartient plus, moi. J'ai joué le rôle terminé. Hein.
Bon, je vais faire un caprice qui va ravir les auditeurs. On va écouter un extrait de votre spectacle.
Dans ma famille, on n'est pas des alcoolos. Non. On est des bons vivants, voilà. On est des bons vivants, c'est la catégorie juste avant. C'est la catégorie qui t'excuse de tout, le bon vivant. Tu vois, tu peux pisser dans la piscine, montrer ton cul à la voisine, coucher avec ta sœur, tant que c'est drôle, t'es un bon vivant. C'est vrai que le jour où j'ai présenté ma famille à Claire, je peux te dire que je lui dis, bon, Claire, te formalise pas, mais à 22h, tout le monde a la gueule un peu rouge. Hein. Bah, quand elle les a vus, elle m'a dit, ouais, mais tu m'avais pas dit qu'ils clignotaient. Josiane, bah déjà le prénom, tu sens que ça pointe les soirées de l'ambassadeur. Il faut l'oublier, on se marre, parce qu'elle fait, oh, je comprends pas, putain de bordel, attends, j'ai une gueule, j'arrive pas à perdre, là, je bouffe rien, je dois faire de la rétention. Tu vois, à ce niveau-là, c'est un barrage.
Allez, hop, Tinder.
Oh, c'est matché. Oh là, on est bien.
Allô? Oui, bonjour. Vous êtes chambre 22? Ah, bah, je suis chambre 21, vous êtes à 20 mètres. À 20 mètres.
That's life. On retrouve tout de suite Arnaud Ducret.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1. Isabelle Morizet.
Arnaud Ducret, avec la scène, les tournages et tous les projets que vous développez, vous avez le temps de vous adonner à votre autre passion qui est la course automobile?
Oui. Pas toujours.
Pas assez,
oui. Puis des fois, je le dis pas parce que j'ai pas le droit avec les assurances de faire des. Mais je ne fais pas de course automobile. Mais là, j'ai fait un stage sur les Lamera avec Nicolas Béraud, formateur de Normand, d'ailleurs, que je salue, qui est un très très bon formateur de pilote de course, très grand pilote.
Lamera,
c'est des prototypes, c'est des moteurs de Ford, voilà, où c'est des voitures de 389 chevaux, 900 kilos. Et donc voilà, c'est des vraies voitures de course. On s'amuse vraiment bien et c'est génial. Donc voilà, je fais des stages. J'en ai fait avec mon co-auteur Tom Villa, qui est venu avec moi la dernière fois, qui roule très bien lui d'ailleurs.
Co-auteur de That's Life.
De That's Life, il m'a mis des secondes dans la vue, donc je suis un peu dégoûté. Il va falloir que je récupère ça.
Voilà, exactement.
Mais j'aime
ça,
ouais.
C'est votre père qui vous a initié enfant en vous entraînant sur les circuits, c'est ça?
Il m'entraînait pas sur. En m'emmenant sur les circuits, mais ouais. Je ne m'entraînais pas avec lui sur les circuits. Mais en tout
cas, bien sûr, mais quand je dis vous entraîner, oui, c'est bien, je te prends ça. Par la main, t'es tout petit. D'accord. Et tu vas voir des choses formidables.
Ah bah, j'allais, on arrivait aux Essarts, pour ceux qui connaissent à Rouen, c'est un circuit des Essarts, de côte aussi, il y a une énorme descente avec le virage du Nouveau Monde et tout, c'était extraordinaire. On se mettait là, nous avec mon père, et tous les samedis, c'était le seul samedi où je ratais l'école, pour aller le matin, très tôt, à 6h du matin. Avec la bénédiction des parents, à 6h du matin, je partais avec mon père aux Essarts, on arrivait, on entendait les voitures au loin, ça sentait les saucisses, les frites, tu vois, et nous on arrivait là, on sentait l'essence, tout ça, et c'était génial, extraordinaire.
Alors depuis, Arnaud Ducret, vous avez pris le volant en participant au trophée Andros sur glace, et je précise, intégralement sur glace, ce qui induit une conduite particulière avec des voitures qui, paraît-il, peuvent déraper à 160 km/h sur la glace.
Hein. Sur la glace,
voilà. Ouais. C'est du sport, ça.
Bah, c'est du sport, mais certaines personnes pensent que être pilote de course, c'est pas. Alors, je ne suis pas pilote de course, hein, mais j'aime ça. Mais les vrais pilotes de course, dont Nicolas Béraud qui nous forme, c'est des mecs, c'est des sportifs. Hein,
parce c'est archi physique.
Mais vous vous rendez pas compte, tu tapes 2 heures de course, ils font des fois des relais de 2 heures. C'est du sport.
Alors, lequel des deux Arnaud est le plus doué au volant, Arnaud de sa mère ou vous, Arnaud Ducret?
Arnaud de sa mère, totalement.
Il est plus doué que vous?
Ah ouais, mais Arnaud de sa mère, déjà, il est beaucoup plus léger. Non, mais Arnaud de sa mère fait beaucoup. Alors lui, c'est comme il aime. Je ne vais rien dévoiler parce que je pense qu'il a dû peut-être déjà vous le dire, mais lui, il me dit souvent, j'ai raté ma profession. J'aurais dû être pilote de course.
Alors, Stéphane De Groot l'a été, par exemple.
Stéphane De Groot, il l'a été en rallye, et Arnaud de sa mère, lui, c'est une deuxième peau, c'est son deuxième métier, c'est pilote de course. Ah oui, il aime ça, et il pilote très très bien.
Bon, en attendant, revenons là où vraiment vous excellez, Arnaud Ducret, la comédie. Alors, jusqu'au 2 janvier, du mercredi au dimanche, vous dynamitez la scène du théâtre de la Gaîté Montparnasse à Paris avec un show, on l'a dit, très autobiographique. Par exemple, en épousant cet été l'amour de votre vie, vous avez hérité de triplé. Alors je disais que c'était pas une blague, mais vraiment, c'est pas un truc écrit pour faire un sketch. Vous avez à la maison des triplés de 15 ans. Donc les problèmes d'ado, vous les avez en même temps. Puissance 3, c'est
ça ? Voilà, c'est ça. Bah, 16 ans maintenant, ils ont. Donc oui, on les a, puissance 3. C'est-à-dire, tu vas où ? Tu sors où ? Mais pourquoi tu vas là-bas ? Donc voilà, c'est assez... voilà, faut toujours
mais avec les... des triplés qui ne se ressemblent pas du tout ?
Qui ne se ressemblent pas du tout. Ça n'a aucun intérêt, ça je vous le dis. Ça ne sert à rien. Des triplés qui ne se ressemblent pas, c'est juste trois crises d'ado, comme vous le dites. Hein. Ça n'a aucun sens. Non, mais je les aime beaucoup. Mais ils ne ressemblent... C'est deux garçons et une fille, Angélique, Florian et Léo. Et c'est extraordinaire. Hein. Moi, j'aime bien les tribus. C'est-à-dire que quand avec mon fils Oscar, les triplés et Claire, on se balade à 6 pour aller en vacances ou etc. J'ai plaisir à ça, ça me plaît d'avoir oui. Tout le monde. Ouais, c'est quelque chose que j'aime.
Et puis on peut dire que le tournage de Parents Mode d'Emploi, bah, c'était un training pour vous. Hein, c'était un training.
C'était un training, mais c'est quand même plus facile quand c'est écrit que quand ça ne l'est pas, parce que des fois tu n'arrives pas à gérer les chacun et tu dis ah, c'était pas écrit ça.
Vous manquez parfois d'autorité ?
Non, je ne crois pas manquer d'autorité. Bah si, un peu comme tout le monde, hein, je ne suis pas non plus, mais c'est-à-dire que quand je commence à monter la voix, mon fils, par exemple, lui, vite, il peut vite redescendre quand je commence vraiment à monter la voix, quoi. Mais parce que bon, je parle fort. Mais les enfants de Claire sont très bien élevés, sont des gamins superbes. Voilà, il n'y a pas besoin non plus de s'exciter comme des dingues, mais c'est du boulot.
Alors, Arnaud Ducret, je voudrais savoir si on peut avoir quelques scoops sur le nouveau film de Christopher Thompson, Tendre et saignant, à l'affiche duquel vous êtes, film qui va sortir au début de l'année et qui est une comédie romantique.
Ouais. Belle comédie romantique gastronomique.
Ah, ouais. Tendre et saignant.
Ouais,
voilà.
Tendre et saignant. Alors... On s'inspirait d'un boucher star. Enfin, Christopher s'est inspiré d'un boucher star de Paris. Et voilà, on a voulu parler de ce métier et de ce melting pot incroyable quand tu as maintenant des bouchers qui font des restaurants en même temps et ça cartonne. Et je suis boucher d'une petite boucherie qui est tenue par le papa de Géraldine Pellas, qui sera ma future conquête, qui est joué par Jean-François Stévenin. Et cette Géraldine Pellas, elle, travaille dans une grande agence de bouquins de mode. Et,
oui, donc sur une autre planète.
Sur une autre planète. Une rédaction pour un bouquin de mode. Et en fait, elle va être obligée de reprendre cette boucherie avec moi dedans. Et, sauf que ça parle. Alors, il y a cette confrontation des deux mondes. Et surtout, ça parle aussi du grand respect qu'on a pour ce métier et de ceux qui le font avec grand respect, c'est-à-dire de l'amour, de la viande, de bien nourrir les gens. Et d'aller jusqu'à chez l'agriculteur pour savoir que les éleveurs, pour savoir comment ils amènent leur bétail en fin de vie pour faire de la bonne viande. Enfin voilà,
c'est une comédie romantique, mais sociale en même temps.
Mais sociale en même temps.
En filigrane.
Bah, totalement, sociale, totalement. Et au milieu de tout ça, il y a une histoire d'amour extraordinaire avec ces deux personnages, un joué par Géraldine Pellas, moi qui joue l'autre personnage et qui est magnifique. Le film, je l'ai vu, je l'ai revu. Il est formidable. Vraiment. J'ai hâte qu'il sorte.
Tendre et saignant. Vous avez hâte qu'il sorte. Il a été repoussé à cause du Covid.
Bien
ce
sûr.
Sera au début de l'année prochaine.
Ouais, je pense qu'on va être sur du mars 2022.
D'accord. Mars 2022. Alors, je vous le dis, hein, Christopher Thompson, donc le réalisateur, dit que vous êtes un acteur d'une inventivité rare et qu'avec vous, bah, y a juste à bien placer les caméras.
C'est gentil.
J'ai entendu dire ça.
Ah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Bah, j'aime beaucoup Christopher. Ouais, c'est pareil, c'est quelqu'un de très délicat, de très classe, qui sait exactement ce qu'il veut, autant dans la direction d'acteur que dans l'image. Et c'est, quand on est comédien, c'est aussi un bonheur formidable. Et puis alors là, je le répète, mais bon, il l'aimait tellement, mais c'est le petit-fils de Gérard Houry.
Mais oui.
Donc,
oui.
Et j'ai envie de dire, je suis quand même très fier.
Et fils de Daniel Thompson.
Voilà, et de fils de Daniel Thompson que j'aime beaucoup aussi.
Alors, vous n'avez que 40 ans. Qui sera Arnaud Ducret dans 10 ans ? Un producteur, réalisateur et comédien qui aura construit son terrain de jeu comme Danny Boone a construit le sien ?
Moi, j'aimerais bien. Ouais.
J'aime bien le côté faussement détaché de la réponse.
Non, mais c'est-à-dire que oui, je crois que maintenant on vit dans une époque où pour les comédiens, s'il y a des jeunes comédiens, futurs comédiens en herbe là, qui nous écoutent, je crois qu'il ne faut plus être que... Alors chacun fait les choses différemment, mais il ne faut plus être que comédien, il faut être aussi producteur, il faut être... voilà, je pense qu'il faut être à la base de ce qu'on a envie de faire, comme faisait notre grand comédien qui était Jean-Paul Belmondo, il produisait ses films. Je crois qu'il faut être à la base de ça et réaliser aussi, j'aime beaucoup, j'ai hâte de pouvoir le faire. Je suis en train de travailler sur mon prochain film qui est La véritable histoire de Maître Li, tiré d'un des personnages de mon spectacle que j'avais avant,
ouais.
Maître Li, prof de karaté.
Ouais.
J'en fais le film là pour l'été prochain.
Ouais.
Donc voilà, la réalisation, rendre beau les acteurs et de les voir jouer, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc je veux réaliser, produire et être à la base des scénarios.
Vous savez quoi ? C'est euphorisant de parler avec vous, Arnaud Ducret. Bon, allez, un conseil d'amis. Tous à la Gaîté Montparnasse à Paris pour pulvériser le spleen avec That's Life d'Arnaud Ducret jusqu'au 2 janvier. Merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie, c'était un très bon moment. Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.